Parlons sport sur RTVFM.
RTVFM. RTVFM.
Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de RTV Sport. 1h30 de sport. Non, on va faire 20 minutes de sport. Et puis après, ce sera du petit sport. De la découverte, on va dire, avec du rugby à 13. C'est quoi déjà le rugby à 13, Jean-Yves ? Bonjour Jean-Yves.
Bonsoir Lionel, bonsoir Valérie, bonsoir Pascal Vassé, bonsoir Louis notre stagiaire et bonsoir à Flo. Je ne répondrai à partir de maintenant qu'aux questions intelligentes, donc inutile que tu me parles.
Qu'à ton avocat, c'est ça ? Non, mais on en parlera. Regarde déjà, moi mon invité il est là, tes invités sont toujours pas là. Hein ? Donc ça déjà.
Parce qu'on l'avait prévu un peu plus tard.
Ah, c'est pour ça.
Les stars vont t'attendre.
Comment vas-tu? Parce que la semaine dernière,
je vais parfaitement bien. La semaine dernière, j'étais en déplacement
à la mer,
dans les Alpes-Maritimes.
Bah oui, à Nice.
Ouais. Superbe. Ouais. Menton, exactement lundi soir.
Ah oui, chez les jeunes.
Okay. Le citron.
C'est ça. Donc, Valérie, comment vas-tu?
Bonsoir, je vais très bien. Très bien.
Merci. Ces vacances.
Très bien.
En tout cas, ce soir, nous allons parler donc d'un vrai sport, le handball, avec. Tu l'as présenté tout à l'heure, hein, Pascal Vassé, vice-président du Mazan Ventoux Contant Handball. Bonsoir Pascal.
Bonsoir Lionel.
Comment vas-tu?
Très bien, très bien.
Bon, mais tant
mieux. Tu m'étonnes qu'il va bien Pascal en ce moment.
Donc, il va très bien effectivement, on va en parler dans quelques instants. Qu'il va bien. Parce qu'on va parler de suite avec Pascal, comme ça au moins c'est fait. Et après, on aura
la fédération.
Le rugby à 13. Ah oui, 13, oui. Ou 15.
13.
Voilà.
Alors, on a un stagiaire, effectivement, c'est Louis. Ça va, Louis ?
Ça va très bien.
Pas trop intimidé, c'est bon ?
Un peu.
Ouais, non, mais n'aie pas peur. Alors, Jean-Yves, tu verras, il est impressionnant comme ça, mais c'est un gros nounours, en fait.
Ouais.
Bon, on va passer parce que je pense que nos auditeurs, ils vont vite changer de radio parce qu'à force d'écouter des bêtises de votre part, franchement, c'est pas intéressant. Par contre, ben, le hand, c'est vachement intéressant. Hein, parce que Mazan, National 2 pour la deuxième année.
Tout à fait.
Je voyais réfléchir.
Non, mais c'est...
Mais oui, c'est ça,
c'est
deuxième année.
C'est exactement ça, oui.
Donc, moi, je voulais te recevoir parce qu'effectivement, ça permet de faire un bilan un peu plus qu'intermédiaire parce que c'est vrai que l'an dernier, c'était une nouveauté, la Nationale 2, quelque chose qui n'était pas prévu. Finalement, vous n'êtes pas si mal sorti que ça. Hein. Quel a été le classement final l'an dernier ?
L'an dernier, on termine à la 10e place. C'était une première année sur 12.
Sur 12.
Bon, nous, on savait qu'il n'y avait pas de relégation, donc ça a permis aussi de prendre la température de la Nationale 2 et de s'adapter au niveau et de faire jouer aussi des joueuses qui ont découvert ce niveau-là, même si c'était le cas pour la plupart, mais bon, d'élargir un petit peu le groupe et surtout d'anticiper sur cette saison. Voilà, qui se déroule de la meilleure des manières.
Et sinon, l'an dernier, c'est vrai que c'était une découverte pour tes filles. Après, c'est vrai que cette année, il y a eu quand même quelques changements. Est-ce qu'ils étaient prévus, ces changements ?
Les changements,
au niveau du capitainariat ou de l'entraîneur, etc.
Il y a eu un changement important, qui est le changement de staff, puisque Carl Vincenot...
Mais ça, c'était prévu en tout début de saison précédente.
Oui, ça a été validé en janvier.
En milieu de saison, vers le mois de janvier, Carl a exprimé le souhait de prendre du recul, parce que ça faisait 5 ans qu'il avait l'équipe en main et qu'il pensait que son message avait de plus en plus de mal à passer et donc il fallait transmettre le témoin. Donc ce qu'il a fait, ce qu'on a du coup étant annoncé suffisamment tôt, on a pu préparer tranquillement le changement. En fait, ça a été un changement dans la continuité puisque Vincent, le gars, travaillait déjà un petit peu avec lui. Mais du coup, Vincent a quand même des méthodes peut-être un petit peu différentes. Enfin, c'est de toute façon une autre personnalité. Et avec Karine Davin en duo, ils font tous les deux, c'est vrai, un joli duo. Alors, il y a eu un petit temps d'observation en début de saison. Hein, les résultats n'étaient pas mirobolants. Et puis maintenant, ça fait 6 victoires d'affilée, là où les choses sont vraiment bien en place au niveau du jeu et au niveau de la vie du groupe. Donc la mayonnaise a bien pris entre le staff et les joueuses.
Il y a quelque chose d'important aussi dans la vie de, du groupe, c'est le partenariat que vous avez avec Sorgue. Je sais pas, convention, t'appelles ça toi?
C'est une convention, voilà. Oui, tout à fait.
Oui. En tout cas, ça vous a permis dès l'an dernier d'aller chercher des gamines, je dis des gamines, mais voilà, parce que c'était le but, c'était d'aller chercher plutôt des jeunes, d'aller chercher des gamines du côté de Sorgue, de les préparer à évoluer cette année en National 2 pour étoffer le groupe. Et pour le coup, ben, ça vous donne raison d'avoir anticipé ce partenariat, de l'avoir, alors, cette convention, j'ai du mal avec ce
oui,
mot.
Oui,
mais pour le coup, ça valide cette décision de l'avoir fait. Parce que du coup, ben, cette année, on voit que il y a 4 ou 5 gamines issues de cette convention là, de Sorgue.
Il y a 4 jeunes filles qui jouent très régulièrement,
ouais,
tous les week-ends
et des jeunes,
dans la convention.
De très jeunes gamines, des moins de 15, je crois, ou moins de
17. Des moins de 18. Donc 16 ans, quoi.
Ouais. Donc 16 ans pour jouer en National 2.
Oui, tout à fait.
C'est pas mal, ça.
Il y a 2 joueuses qui sont au Pôle Espoir de Marseille, et plus Laurine Combe et Léa, qui est un petit peu plus âgée. Mais voilà. Et donc, il y a 4 joueuses, effectivement, et ça valide la convention. Alors, je te reprends sur le terme, Jean-Yves, si tu me permets. Aller chercher des joueuses. Non, on n'est pas allé chercher. On travaille avec Sorgue, et c'est vraiment une entité nouvelle s'appelle Mazan Sorgue Handball, même si c'est le club de Mazan qui est porteur, c'est vraiment une entité où les choses sont partagées entre les deux clubs.
C'est-à-dire que c'est pas Mazan qui décide.
Bah, sur la Nationale 2, c'est Mazan qui est porteur de l'équipe Nationale 2. La réserve, c'est Sorgue. Les moins de 18, c'est Mazan. Et les moins de 17, c'est Sorgue. Mais voilà, ça, il y a le club porteur. Mais après, dans chacune des équipes, des joueuses des deux clubs peuvent évoluer. Alors, ce qui se passe sur les 4 collectifs.
Quand je te dis aller chercher, c'est que l'idée de départ, quand même, c'était de renforcer la Nationale 2. Et
de permettre à des joueuses de Sorgue de jouer à ce niveau-là, alors qu'il n'y avait pas ce niveau-là dans leur club.
Donc c'est pour ça que je te dis d'aller chercher. C'était parce que.
Non, mais c'est une petite nuance.
Voilà. Non, mais c'est en tout cas, ben la démarche était la bonne, même si elle a été décriée quand vous l'avez mise en place. On a entendu des gens, notamment du côté de Sorgue, qui avaient l'impression que leur club était pillé. Et puis finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que. Ces nanas là qui jouaient en pré-national, me semble-t-il,
ou en 18 ou en pré-national, qui ne seraient certainement pas restées à Sorgue d'ailleurs.
Bien sûr.
Finalement, elles sont toujours à Sorgue et elles évoluent dans. On a apporté quelque part Mazan a apporté le niveau de jeu, quoi.
Mm-hmm. Voilà. Et est-ce que justement cette convention permet pas non plus de garder les joueuses, parce que on s'était vu l'an dernier et c'est vrai que le problème principal, c'est, tu le disais Jean-Yves, ce sont des très jeunes filles. 16, 17, jusqu'à 19, 20 ans. Et c'est vrai qu'après, la faculté, c'est pas à côté. Il y a Avignon, mais souvent, elle s'oriente vers Aix, Marseille, et Montpellier. Là, au moins, ça permet d'étoffer l'équipe première.
Tout à fait. Si justement, on regarde l'effectif, ce week-end, il y avait 4 joueuses licenciées à Sorgue et 8 à Mazan. 8 joueuses de Mazan, tu ne joues pas en National 2 avec 8 joueuses de Mazan, avec 8 joueuses.
C'est ça, ça vous permet d'avoir une barre en plus.
Ça nous permet d'avoir vraiment un collectif étoffé. D'ailleurs, il y a une quinzaine de filles susceptibles de jouer en National 2 chaque week-end.
C'est peut-être ça aussi la différence, c'est que je me souviens les saisons précédentes, Karl, il avait souvent du mal à avoir un groupe à peu près cohérent. Et des fois, il était obligé de racler les fonds de tiroir. Alors, c'est pas péjoratif ce que je te dis, mais il y avait, on a pu voir des nanas qui évoluaient en National 3 à l'époque, qui étaient presque un petit peu limite. Même un petit peu l'an dernier, ça a pu être le cas. Alors que cette année, t'as pas besoin d'aller racler puisque ton groupe, il est prêt. Tu le dis, t'as 15 joueuses pour 6 places de titulaire
pour 12,
pour 12
sur la
joueuses
de match,
sur la feuille de match. C'est plutôt, c'est plutôt intéressant. Tu peux faire tes déplacements à 12.
Tout à fait.
Alors qu'il me semble que l'an dernier et les années d'avant, vous en avez fait dans des conditions précaires.
Non, puis ça permet d'avoir une certaine concurrence. Ce qui est une émulation saine, quoi, de toute façon.
Complètement.
Et justement, la relation qu'il peut y avoir avec la réserve. Ça se passe comment? C'est-à-dire qu'il y a justement une concurrence au niveau de la réserve pour pouvoir éventuellement monter en National 2, ou ce sont vraiment 2 entités différentes?
Ça, c'est le souhait que l'on a. Alors, ça marche plus facilement dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des joueuses de l'équipe réserve qui n'ont pas forcément l'ambition de jouer en équipe première. Par contre, il y a des joueuses actuellement de l'équipe première qui ne jouent pas, puisqu'avec un groupe de 15, voire 16 joueuses, quand tu en prends 12, il en reste 3 ou 4 qui sont susceptibles d'aller jouer avec l'équipe réserve. Et c'est ce qui se passe.
Donc pour l'instant, voilà, il n'y a pas.
C'est l'objectif, c'est que vraiment l'équipe réserve soit une équipe réserve à part entière avec le plus avec
mais
le
les
plus possible de jeunes filles.
Les deux s'entraînent en même temps, l'équipe réserve et l'équipe première, ou pas?
Elles ont un entraînement commun, oui, par semaine, chaque semaine.
Ce qui est dans tous les cas la logique, en fait, quand au rugby par exemple, on voit des groupes de 30 ou 35 mecs s'entraîner une fois dans la semaine ensemble, et puis après plus arrive la fin de la semaine et plus tu t'approches de l'objectif, et ben tu sais quel mec de la réserve tu vas prendre. Alors là maintenant en Fédéral 1 ce sont les espoirs, mais tu sais que tu vas aller prendre un ou deux mecs ou trois en espoir, les intégrer dans le groupe premier, et accessoirement un mec qui a pas été bon en première, ou une nana qui a pas été bonne en première ce week-end, eh ben tu peux aller l'avoir plus tôt dans la semaine en lui disant bon écoute, t'as pas été bonne, soit tu nous fais une semaine d'entraînement de fou et à ce moment-là on peut réfléchir, soit tu vas aller te refaire un peu la cerise, et
c'est l'intérêt de la convention, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas les moyens nous seuls d'avoir une équipe en National 2 et une équipe en pré-national, une équipe réserve, quoi. Donc là, la convention permet ça. Elle permet en fait à des joueuses d'avoir deux voire trois projets, trois possibilités de niveau de jeu. Moins de 18, pré-national, national 2 par exemple. Donc on doit fournir en début de saison des listes de joueuses. On a un maximum de 30 joueuses par liste, et donc il y a des joueuses qui figurent sur deux, voire sur trois, pour certaines sur trois listes différentes.
Donc, en fonction
de l'évolution au cours de l'année, des motivations, de la condition, enfin de l'état de forme.
Simplement de la concurrence.
Et de la concurrence, elles peuvent monter, descendre. Jouer au moins de 18.
Du coup, même pour Vincent, ça doit être plutôt intéressant parce que il peut choper les 12 nanas qu'il a envie d'avoir. Bon, si t'enlèves le problème des blessures, et ça, tu peux rien faire. Mais c'est plus facile pour un coach d'avoir 15 nanas et de pouvoir en prendre 12 plutôt que de se dire, j'en ai que 12, il va m'en falloir 12. Même s'il y en a une qui fait pas la maille, t'es malgré tout obligé de la prendre en espérant qu'elle flanche pas. Alors que là, t'es jamais à l'abri, mais effectivement, la concurrence, ça a toujours,
bien sûr,
ça a toujours du bon.
Et pourquoi avoir choisi Sorgue? Parce que c'est pas à côté de Mazan.
C'était le seul choix.
C'était un choix par défaut. Non, pas du tout. Non, c'est quelque chose qui a mûri progressivement entre les dirigeants des deux clubs. C'est deux clubs qui se ressemblent au niveau de la formation des jeunes. Et comme nous, sur Mazan, notre préoccupation était aussi la formation des jeunes, tout comme Sorgue justement. On a trouvé du sens à cette convention parce que comment on fait les uns et les autres pour conserver nos meilleurs jeunes? Comment on fait pour leur proposer un ou plusieurs niveaux de jeu qui leur correspondent? C'était justement par le biais de cette convention. Donc ça tombait sous le sens. Et ça n'aurait aucun intérêt de faire ça avec un club qui ne fait pas de formation. Donc on était vraiment...
Dans une logique.
Dans
une logique.
Dans une logique, oui.
Voilà. D'accord. Vraiment la formation pour fidéliser et avoir une équipe.
Voilà,
au
ce qui fait qu'on élargit la base jusqu'au moins de 15 ans, parce que on a des jeunes à Mazan, il y a des jeunes à Sorgue, et à partir des moins de 17 ans, on réunit tous les meilleurs sur ces quatre collectifs-là dont on vient de parler.
Les entraînements ont lieu où? À Mazan ou à Sorgue?
À Mazan et à Sorgue. C'est réparti sur les deux clubs.
D'accord. On fait une petite pause et on continue de parler de Mazan après. RTVFM.
Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne vois pas.
Et si on en est là, c'est de ma faute. Je n'aimerais personne. J'ai fait une bêtise qu'il faut pardonner. Si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. Et puis si j'insiste, c'est qu'il faut pas oublier.
Évidemment, on va aller
assez parlé le temps, on a assez haussé le ton, rien ne sera plus jamais comme avant. Si je te mens, c'est pour notre bien justement. Ne me juge pas sur le moment ou sur ce que me font faire mes démons. Est-ce que tu te vois tout reconstruire avec un autre? Souffrir sans dire un mot, revenir pleurer sur mes épaules. Est-ce que tu nous vois expliquer tout ça à nos parents? Laisse-moi espérer que ça s'arrange. T'as oublié tout ce qu'on se disait. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne le vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne le vois pas.
Et si on en est là, c'est de ma faute. Je n'aimerais personne qui l'a. J'ai fait une bêtise qu'il faut pardonner. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. Et puis si j'insiste, c'est qu'il faut pas oublier. N'arrête pas la guerre à cause d'une bataille. N'arrête pas à cause d'une entaille. Je sais que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Je suis tombé bien bas, mais stop, ne me juge pas. Plus rien ne se passait comme d'hab. Tu m'écartais doucement de ta life. Tu m'as poussé à faire ce que tu n'aimes pas. Pour dire que je ne t'aime pas, donc qu'est-ce qui ne va pas?
Et tu me tournes le dos pour t'en aller. Je ne peux pas supplier. Pour toi j'ai fait plus que des mots. Faut pas l'oublier. Et si c'est là que tu m'abandonnes, je vais pas te le pardonner. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne le vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne le vois pas. Je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne le vois pas. Pour toi, pour toi. Pour toi, mais tu ne le vois pas. Non, non, ça ne le voit pas.
Parlons sport sur RTVFM.
Voilà, de retour dans le studio. Et puis, ben, le studio s'est agrandi. Hein. On a nos invités du rugby à 13 qui sont arrivés. Donc, Jean-Yves, tu t'es un peu moins seul maintenant.
Ouais. Et donc, merci les copains d'être venus, ma martyrise.
Bah, d'accueillir tout d'abord donc Xavier Vasson, qui est président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Tout à fait, oui.
Et également membre du comité directeur de la Fédération française.
C'est cela.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bah, je vous en prie, merci à vous.
Et Florian Chotard, conseiller technique national et non régional, monsieur Jean-Yves, quand on nommait commentaires sur Facebook, il
écoute,
faut les mettre correctement déjà.
Écoute,
et je suis ravi de t'accueillir, Florian. Sois le bienvenu ici à la radio. Et si Jean-Yves t'embête, qu'est-ce qu'il est à côté, tu me le dis.
Merci de votre accueil.
Voilà. T'avais quelque chose à rajouter, Jean-Yves?
Non, rien.
Bon, tant mieux. Donc on était en train
j'ai
de parler.
Je dis que je parlais plus avec toi, de toute façon.
Très bien. Donc on était en train de parler de hand avec Pascal Vassé. Donc on a parlé un petit peu de la convention qu'il peut y avoir avec Sorg. On parlait également donc de la fin de saison. Lorsque vous avez débuté donc cette saison 2018-2019, quel est l'objectif? Quel était l'objectif en tout cas en septembre?
Ben, c'est toujours le même. Hein. L'objectif, c'est une des cinq premières places, le top 5. Donc voilà, on est dans les clous puisqu'on est cinquième actuellement à cette journée de la fin.
Cinquième à deux petits points du deuxième quand même. Hein.
Oui, tout à fait, oui.
Alors, c'est vrai que c'est bon. Très très serré. Hein. Je regardais un petit peu les stats. Déjà, bon, Ajaccio est premier.
Oui.
6 points d'écart, donc eux, ils sont quand même
quasiment intouchables.
Intouchables.
Mmh. Ouais,
vous attendiez
ouais.
à voir Ajaccio aussi en première.
C'est pas un club qui fait de la formation, mais c'est un club qui est susceptible sur certaines années de faire un recrutement judicieux, d'avoir quelques moyens. Inhabituel, je veux dire.
Spontané.
voilà. Et du coup, il a effectivement ses moyens et il a, et ils ont une équipe qui est plutôt sympa et plutôt armée pour monter en National 1, oui.
Alors après, vous êtes tous dans un mouchoir de poche, hein.
Oui.
Puget sur Argent, ils sont deuxième, ils ont que 2 points d'écart avec vous.
Oui.
La Garde, il y a 1 point. Et puis par contre, vous êtes à égalité, c'est le goal average qui joue, c'est avec l'étoile sur Rhône,
oui.
où là justement vous êtes tous les deux à 33 points.
Mm-hmm.
Donc vous êtes vraiment, tout est jouable, il reste 7 matchs
Il reste 7 matchs, alors on a rencontré déjà Val d'Argence à domicile, qu'on a battu largement il y a 2 semaines. Donc on est devant au goal average particulier, donc ça peut jouer en fin de parcours. Et puis on rencontrera la Garde et Étoile Beauvallon à domicile. Par contre, on va aller à Ajaccio dans 3 semaines.
Et là, il y a un match important, c'est contre Antibes.
Oui, contre Antibes.
Alors, vous aviez perdu chez eux,
oui.
Pas de beaucoup. Hein.
Non, pas de beaucoup.
5 points.
Je me souviens plus le score. Mais...
39 pour Antibes et 34 pour vous, donc
oui.
5 points d'écart.
Alors, ça correspond au début de saison. Je disais tout à l'heure qu'on était... Bon, et c'était le temps que les choses se mettent en place avec le nouveau staff.
C'était voilà, chaotique.
Il y a eu un petit moment, on va dire, de rodage. Quoi.
De rodage.
Et maintenant, bon, les choses sont bien... sont bien lancés et je pense que on part en position de favori pour recevoir Antibes. Maintenant, il faut, comme dit Vincent, on joue chaque match les uns après les autres et voilà, il faut pas trop anticiper non plus. Hein. On parle de la deuxième place qui est synonyme de barrage, mais l'objectif premier c'est le top 5 et puis s'il y a mieux, tant mieux. S'il y a évidemment l'opportunité d'aller jouer un match de barrage pour l'accession nationale 1, ben, on le jouera avec l'objectif de le gagner et d'accéder. Mais n'oublions pas que pour l'instant, c'est le top 5 et que voilà, il faut jouer match après match.
Si ça se présente à la montée ?
Bien sûr qu'on la prend. Bien sûr.
Vous êtes il y a quoi en termes de. Il y a quoi comme différence en termes de budget et d'équipement ?
Alors,
parce qu'on a l'impression que, enfin, moi qui suis le truc depuis une paire d'années là, j'ai vu qu'il y avait un énorme step entre la National 3 et la National 2 en termes de volume de jeu, en termes même de moyens qu'il te fallait mettre pour avoir un groupe. D'ailleurs, tu l'as bien vu puisque tu as été obligé de faire une convention avec Sorgue. C'est quoi le step entre la National 2 et la National 1 ? Est-ce qu'il y a autant d'écart entre la 2 et la 1 ?
Au moins autant. Alors. D'abord, il faut savoir on peut pas dire aux joueuses, on va quand même pas leur dire de
clairement,
pied
clairement, bien sûr.
Moi, à l'époque où j'étais joueur, on me dit ça, j'arrête tout, quoi.
Bien sûr.
De toute façon, faut accompagner les joueuses dans leur ambition sportive. Et si on doit monter, ben, on doit être en mesure de les accompagner pour pouvoir évoluer au niveau dessus. Donc ça, c'est la première chose. Après, effectivement, sportivement, il faudra probablement renforcer un petit peu le groupe, faire quelques petites retouches, quoi, hein, idéalement 2 ou 3 joueuses. Donc il faudra qu'on s'y attelle
très vite.
Après, financièrement, économiquement, c'est sûr que le budget
n'est
pas tout à fait le même. Non, pas x2.
Pas tant.
Non, pas tant. Non, parce qu'avec la refonte des poules de National 1, National 2, National 3 qu'on a connu l'an dernier, en fait, il n'y a plus 3 poules de National 3, mais de National 1, mais il y en a 4. Ce qui fait que
les déplacements
sont moindres. On ne risque pas d'aller en région parisienne ou dans l'ouest de la France.
Même là, vous faites moins de gros déplacements par rapport à la saison dernière,
oui,
me semble-t-il.
Oui, tout à fait, oui. Eh bien, en gros, les déplacements de la National 1, ce sont les déplacements de la National 2 de l'an dernier.
D'accord.
Voilà. En gros, c'est ça.
Donc, en clair, vous avez les épaules pour monter. Il manque plus que terminer à la deuxième place
Il y a deux choses pour évoluer au-dessus. Il y a l'aspect sportif et l'aspect économique. Bon, l'aspect économique, on a quelques garanties dont je ne parlerai pas.
Allez, vas-y.
Non. On a quelques garanties pour pouvoir avoir des moyens suffisants pour pouvoir jouer au-dessus.
C'est Jean-Yves le nouveau partenaire et il amène
d'accord.
Beaucoup.
Ah bien, merci Jean-Yves.
Avec plaisir. Pas,
donc ça en fait un de plus, c'est bien.
Xavier, si t'as besoin, toi aussi, pendant que j'y suis.
D'accord. On est preneurs.
Non, mais c'est vrai que c'est un point important parce que c'est, enfin, l'argent, malheureusement,
sûr,
c'est le nerf de la guerre et sans ça, on fait rien. Mais bon, voilà. Donc il y a pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Par contre, sur le plan sportif, c'est vrai qu'il faut. Alors, si on accède, c'est que les choses sont méritées sportivement sur le terrain. Hein. Donc, on l'a pas volé. Donc, c'est qu'on doit être capable de franchir le cap pourvu qu'on ait un ou deux renforts, qu'on parvienne à trouver un ou deux renforts, quoi.
Donc, pour la montée, le premier monte d'office, le deuxième joue les barrages.
Le premier monte d'office, le deuxième joue les barrages. Mais je répète encore une fois, n'anticipons pas. Nous,
non, là, c'est
même
juste pour comprendre.
On est obligé de prévoir en tant que dirigeant chaque match les uns enfin
oui,
chaque match
là,
l'un
après
on a l'impression d'entendre Giroud parler
oui. Là on a sur le maintien d'abord
mais t'es
qui n'est pas assuré mathématiquement
mais t'es forcément obligé de commencer
à
bosser là-dessus
bien sûr,
forcément
bien sûr c'est pour ça qu'on en parle sinon on en parlerait pas ouais.
Pour les jeunes Giroud c'était un entraîneur de football parce que ça fait longtemps qu'il a quitté les terrains.
Moi, je voulais poser une question à Pascal qui n'a rien à voir avec le côté financier, avec tout ça. C'est simplement la différence entre la saison dernière et cette saison au niveau des filles. Qu'est-ce qui a changé?
T'avais qu'à écouter le début d'émission,
non,
on l'a
est-ce
dit.
Est-ce qu'elles ont plus attaquantes et y a plus. Non, mais elles sont plus nombreuses, c'est une chose. Mais ouais, être plus nombreuses ne veut pas dire être meilleures. D'accord. Donc elles sont en osmose entre elles. C'est qu'il y a au niveau de l'entraînement, il y a plus. Vous avez été plus sur l'attaque, plus sur la défense, ou c'est tout un tout?
Non, c'est un tout. Je pense que Karl avait bien senti les choses, c'est-à-dire qu'il pensait que son discours avait de plus en plus de mal à passer. C'est pour ça qu'il a souhaité prendre du recul. Et je pense que le discours nouveau, les façons de faire de Vincent et de Karine sont quand même différentes par rapport à ce que faisait Charles. Le discours n'est pas tout à fait le même. Et puis Vincent ose donner la chance à certaines joueuses que Karl n'aurait peut-être pas.
Oui, il y a le choix des joueuses.
Voilà, donc ouais. En fait, la force de Vincent a été de réussir à élargir le groupe, quoi. Et aujourd'hui, c'est vraiment un groupe dont on parle. Autant l'an dernier, on avait une joueuse en particulier, voire deux, qui tirait le groupe vers le haut. Autant là, c'est la force de l'équipe, c'est vraiment le collectif.
Voilà, c'est le collectif qui a changé énormément
tout à
par
fait.
Rapport à ce qu'il y avait l'année dernière.
Oui.
Alors moi j'avais une question parce que bon la semaine prochaine Antibes je dirais pas que c'est une formalité parce qu'en sport
ça
n'est jamais
non.
Sur le papier vous êtes favori. Le match le plus important je trouve que c'est contre les premiers Ajaccio 31 mars prochain. Lorsque vous les avez rencontrés hein, donc vous avez gagné c'était à domicile 23-20.
Oui.
Donc c'était en début de saison c'était autour de.
Tu remarques qu'il a bossé il est plus sérieux que moi. Hein.
Ouais toujours mais en tout cas parce que. Il faut préparer son émission.
D'accord.
Et donc, par rapport à ça, vous allez aborder le match de quelle manière? Parce que vous avez progressé, mais Ajaccio, sur le papier, ils sont devant vous.
Oui, alors je pense qu'Ajaccio a perdu, depuis le début de saison, je crois, deux matchs, dont un à Mazan. Et à mon avis, elles sont prévenues. Et surtout, vu des scores de Mazan-Sorgue ces derniers temps, je pense qu'on sera attendu à Sorgue. Donc, ce sera forcément très difficile de s'imposer. Mais encore une fois, il faut déjà gagner contre Antibes de manière à se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir ensuite essayer d'aller faire une perf à Ajaccio, où ce sera forcément très très compliqué. Mais par contre, c'est vrai que si on l'emporte face à Antibes et puis on réussit une super performance à Ajaccio, bon après effectivement la deuxième place, on peut en parler de plus en plus quoi. Même s'il ne sera pas fini, on s'en rapprochera. Quoi.
Le dénouement, c'est à peu près à quel moment? Barrage ou ça serait la décision, c'est fin mai, début
c'est
juin.
C'est la dernière journée de championnat, je l'ai pas en tête, mais
premier juin, vous
ça risque
allez
de se jouer.
Échalas.
Oui, mais ça risque de se jouer là. Ça risque d'être très serré. Les cinq équipes de tête, en fait, se tiennent. Enfin, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième se tiennent en deux points. Donc
Mais totalement.
Ça va être très serré. Et puis il y a Bouillargues derrière qui est allé battre Ajaccio, qui a fait match nul à Ajaccio ce week-end. Qui est en plein renouveau, c'est une réserve avec un nouvel entraîneur, etc. Et qui
il y a 8 points
d'écart
quand même avec vous.
Ils sont quand même 8 points d'écart avec
non,
vous.
Non, mais c'est pas forcément Bouillard qui va revenir sur nous. C'est Bouillard qui va va jouer les troubles fêtes.
Oui, voilà, va jouer les troubles fêtes.
Et on les recevra, il faudra se méfier de cette équipe-là.
Très bien. Voilà. Alors, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour cette saison.
À toi et à toute ton équipe.
Et bien sûr, on se tiendra au courant de l'avancée des choses. Mais en tout cas, on vous souhaite déjà un gros mot pour le week-end prochain.
Ok, merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, au plaisir. À très bientôt. Et puis, venez nombreux.
Au
match samedi soir, 20h15 au COSEC.
On demandera à l'administrateur de notre page Facebook de bien vouloir communiquer là-dessus.
Parfait.
Il n'y a pas de souci.
Parfait.
Ça sera fait.
Merci à vous.
Message entendu.
Allez, nous, on fait une petite pause et après, on parle du rugby.
On a Jérôme en ligne. On va peut-être pas faire la pause.
Si j'ai 10 secondes, je voudrais juste dire qu'il y a beaucoup de similitudes entre le handball et le rugby. Là, vous vous tirez la bourre tous les deux, mais
non.
Entre le rugby et le handball, vraiment, il y a
ouais, une notion de cadrage. C'est ce que j'ai expliqué à Jérôme.
Cadrage, débordement,
et même
le décalage. Il y a plein de similitudes.
Et même mentalement, les rugbymen sont très proches de handballeurs, absolument.
Voilà. Allez, on fait une pause.
Moi, ce que je veux, c'est être heureux. M'arrêter sur tes lèvres, c'est beaucoup mieux. Moi, ce que je veux, c'est être heureux. C'est toujours mieux ailleurs. Pourquoi moi, je me sens bien en bas de chez moi? Le bonheur des autres et tout ça, ça me laisse froid. Si d'autres mondes vous font envie, moi je trouve mon bonheur ici. Ma rue, je la trouve jolie. Merci, 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 merci. Courir après des rêves, je m'en fous un peu. Moi, ce que je veux, c'est être heureux. M'arrêter sur tes lèvres, c'est beaucoup mieux. Moi, ce que je veux, c'est être heureux. J'aime autant les petits délires, c'est suffisant, bien souvent. Perdez-vous dans les galaxies, après tout c'est chacun sa vie. Ma rue, je la trouve jolie. Merci, 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 merci. Courir après des rêves, je m'en fous un peu. Moi, ce que je veux, c'est être heureux. M'arrêter sur tes lèvres, c'est beaucoup mieux. Moi, ce que je veux, c'est être heureux.
Parlons sport sur RTVFM.
Allez. Si vous nous rejoignez, bienvenue. On est de retour sur le 102.2. Tiens, interrogation orale, Jean-Yves, on peut nous réécouter quand ?
Mercredi matin de 6h30 à 8h, à l'heure où tout le monde dort.
Non, pas du tout.
Et bah, oui. Et sur. Et sur. Facebook, quand tu auras mis le podcast en ligne, mercredi soir, jeudi matin, jeudi après-midi.
On verra comment c'était sympa.
Allez.
Et si tu m'envoies les photos ? Voilà. Donc là, on a parlé de hand et maintenant, on va parler de rugby à 13 avec des invités de marque. Donc, essaye d'être à la hauteur, s'il te plaît.
Écoute, je les connais, c'est mes potes. Donc,
Xavier Vasson, qui est président de la Ligue et membre de, donc, du comité directeur de la Fédération française. Merci, Xavier, d'être présent.
Mais merci à vous de nous avoir invités.
Eh ben, c'est avec très grand plaisir. Et non, c'est vrai. Et Florian Chotard, conseiller technique national. Rebonsoir.
Bonsoir.
Donc on va parler de rugby, mais avant ça, on va parler du rugby de Carpentras qui s'est bien débrouillé ce week-end. Et on est avec Jérôme Alonso en ligne. Tu m'entends, Jérôme? Bonsoir.
Oui, bonsoir tout le monde.
Salut Jérôme. Bonsoir Jérôme.
Bon, salut. Ça va bien aujourd'hui, Jérôme?
Oui, oui, aujourd'hui ça va très bien. Oui.
Hein? Bon score quand même contre Villefranche, 42-24. Vous attendiez un petit peu à ce résultat?
Pour être honnête, non, on ne s'attendait pas à une victoire aussi éclatante. Maintenant, les joueurs ont les ingrédients dans les 30 premières minutes pour faire la différence. Ça a été quelque chose de très bien. On a fait 30 minutes de très haut niveau. Et ensuite, bon, on a la blessure d'Hugo Bravo qui nous a un peu déstabilisés puisqu'on a été obligé encore une fois de changer de charnière. Mmh. Donc ça a été un peu plus compliqué par la suite, mais dans l'ensemble, on est très très satisfait de ce résultat. Ouais.
Par contre, j'ai l'impression que, alors après, est-ce que oui, c'est la blessure d'Hugo, mais quand vous êtes revenu des vestiaires, le début, ça a été un petit peu compliqué. Hein, vous reveniez un petit peu avec vos démons, c'est-à-dire que vous étiez bien parti en première mi-temps, deuxième mi-temps, ça a stagné un petit peu. Ouais. C'est vraiment Hugo, la blessure d'Hugo qui a déstabilisé le groupe?
Non, la blessure d'Hugo nous a déstabilisé surtout en attaque. Après, en seconde mi-temps, notre souci, ça a été que on a fait plus de fautes dans les 10 premières minutes de la seconde mi-temps que dans l'ensemble de la première mi-temps, en tombant les ballons au tenu 0, au tenu 1 et même 2, en prenant 2 ou 3 pénalités dans les 10 premières minutes. Donc, on a remis cette équipe dans le sens de la marche. Et bon, heureusement, on a eu quand même un sursaut d'orgueil où on est revenu à mettre la main sur le ballon et pour finir par marquer encore 2 essais et faire une belle défense au score. On les empêche de prendre le point de bonus et c'était une chose qu'on s'était fixée aussi puisque même si nous on est troisième et qu'ils sortent du top 6 à l'heure actuelle, on sait que c'est une équipe qui peut revenir et on voulait absolument les éloigner le plus possible de nous.
Après, c'est vrai que c'était quand même un super match, hein, 8 essais. C'est quand même vraiment voilà, vous êtes vraiment sur votre vitesse de croisière. Par contre, tu nous confirmes bien que vous êtes troisième au classement parce que sur la fédération, sur le site de la fédé, vous êtes troisième et sur le journal, vous êtes second avec un match toujours de retard sur le journal, alors qu'au niveau de la fédé, vous avez plus de match de retard. Est-ce que tu peux nous éclaircir là-dessus?
Voilà, non. Ouais, oui, ben le classement de sur le site de la fédé est bon. On est troisième effectivement. Mmh. Avec plus aucun match de retard, non, puisque on a fait Ville-Gaillen il y a 3 semaines chez eux, et là on a fait le dernier contre Ville-Franche. Donc on est à jour de nos matchs, et effectivement, oui, on est troisième, toujours pareil, à cause de ces 2 matchs perdus sur tapis vert.
Jérôme, qu'est-ce que c'est qui change depuis 3 semaines, là, où vous avez eu un coup de mou, et puis là ça se regroupille correctement à nouveau? Pourtant, le groupe n'a pas changé, à part le retour de Jordan Richard, mais je suis pas sûr que ce soit juste à lui qu'il faille attribuer
le mérite
de ce qui se passe depuis 3 semaines.
Non, je pense que le problème qu'on a eu, c'est ce qu'on dit depuis quelques semaines de temps, c'est qu'on a un effectif qui est très restreint en nombre, donc on tire sur la couenne aux joueurs. On a eu un petit passage à vide. Donc le préparateur physique Laurent Vasseur nous a concocté quelques séances pour régénérer un peu tout le groupe et ça porte ses fruits à l'heure actuelle. Et on s'aperçoit aussi que les joueurs qui n'avaient pas trop de temps de jeu en début de saison commencent à avoir pas mal de temps de jeu et à montrer que c'est des titulaires indiscutables pour la fin de championnat. Donc ça s'annonce très très intéressant puisqu'on risque de rentrer quand même quelques joueurs dans peu de temps et ça va amener de la concurrence et ça va être bien pour la suite.
La suite, justement, c'est la coupe, c'est ça?
Ouais, la suite, c'est la coupe samedi à Lyon, ouais, en effet. Donc là, bon, par contre, ouais, on va y aller, bien sûr, pour la jouer, puisqu'on est compétiteur et qu'on veut gagner, tous les matchs. Maintenant, il faut être honnête, c'est pas notre priorité. On sait que la Coupe de France, on la gagnera pas. Donc après voilà, on sait qu'on est à 5 points de Ville-Gaillen. Ville-Gaillen doit jouer Baou, il doit venir chez nous. Donc nous, on va se concentrer sur le championnat pour assurer déjà notre troisième place. Et si on peut aller chatouiller Ville-Gaillen, pourquoi pas.
Et pour l'instant, au niveau du papier, vous pensez que vous pouvez accrocher cette deuxième place?
Ben, tant que mathématiquement c'est possible, on a toujours espoir. Après, voilà, on sait que les deux matchs perdus avec zéro point nous font mal, mais tant qu'il y a de l'espoir, oui, on y croit, et en plus, on va tout faire justement pour aller la chercher, puisque ça assurerait une demi-finale à domicile. Ce serait quelque chose d'extraordinaire pour le club, vu d'où on est parti au mois de juillet l'an dernier.
Et sinon, en début de saison, on t'aurait dit, ben, là, au jour d'aujourd'hui, vous vous retrouvez troisième avec deux matchs de perdus sur tapis vert, etc. Tu aurais cru ou pas?
Non, franchement, on savait qu'on avait une équipe qui était capable de se qualifier. Maintenant, on ne pensait pas qu'on arrive à fédérer... les joueurs, comment ils arrivaient à les fédérer, ça prouve qu'avec Gaël, on a su bien préparer cette équipe. Et franchement, au bout de quelques mois quand même, on s'est dit avec Gaël, finalement, ce serait peut-être mieux d'aller chercher une place mieux que la sixième, parce qu'au départ, on s'était fixé la sixième place. Et au fil des matchs, on a de plus en plus faim, puisqu'on voit que malgré tout ce qui nous arrive, malgré les suspensions, malgré les défaites à zéro point, et on est toujours là.
Jérôme,
on continue à gagner. Tout le monde nous avait dit, vous n'avez pas joué contre les grosses équipes. Alors on a joué tout le monde et on a perdu qu'un match sur le terrain. Donc je pense qu'il faudra compter sur nous encore pendant un petit moment.
Jérôme, le président de la Ligue qui est assis à côté là, est en train d'acquiescer. Donc manifestement, il valide le boulot que vous avez fait du côté de Carpentras, et ça donne aussi raison à tout ce qui se passe là autour, là, la formation, le machin, le fait de pas aller chercher des mecs à droite à gauche et de jouer avec les joueurs du cru, contrairement à ce qui se fait dans certaines grosses cylindrées là de l'élite 2, où on en a déjà parlé toi et moi sur cette antenne, mais quand les mecs vont chercher les clubs vont chercher des joueurs de Super League pour jouer en élite 2, alors que vous, eh bien, vous faites avec les moyens du bord finalement, et des mecs qui sont passés par le pôle, des mecs qui ont fait l'école de rugby à Carpentras, c'est ça aussi, c'est la bonne nouvelle, non?
Oui, bien sûr. De toute façon, c'est l'objectif qu'on s'est fixé avec les dirigeants, avec Maxime et les trois présidents. Là, bon, avec les contacts qu'a Gaël en Angleterre, avec les blessures et les suspendus, on avait la possibilité d'aller chercher les Anglais. Ben non, on est préféré aller chercher Jordan qui était parti à 15,
le petit
ouais. Qui était aussi à l'USAP. Donc voilà, on a préféré partir sur ça. On est en train de bien travailler avec les juniors. Vendredi, je vais rencontrer les cadets pour discuter un peu du futur et de ce qu'on attend d'eux et de ce qu'on compte faire d'eux. Non, je pense que la formation est très importante.
Attends, Jérôme, deux secondes. Il y a Xavier là qui voulait intervenir.
Ouais, je veux juste dire que les U17, donc les cadets U17 de Carpentras qui finissent premiers de la ligue, premier de oui. Du championnat de la ligue, donc ils ont perdu un seul match ce week-end d'ailleurs, je crois qu'ils ont joué juste
ouais,
avant,
ouais,
ils ont perdu leur premier match, donc belle équipe U17 et belle formation au niveau de Carpentras depuis des années où on fait un boulot vraiment un très très beau boulot. Alors, de l'école de rugby jusque ces jeunes, je crois qu'on peut saluer ce travail qui est fait. Ouais.
Et au niveau, et juste une parenthèse, Xavier, au niveau de la Ligue, justement, Carpentras est le seul exemple par rapport à ça?
Non, ça se fait dans les autres clubs.
Non, dans les autres clubs.
Ça se fait dans les trois autres clubs. Enfin, si on parle des trois clubs phares, on va dire Avignon, Carpentras et Entraigues, on retrouve souvent des gamins du cru. Enfin, Jérôme, tu me contrediras sûrement pas, mais on retrouve des Entraiguois à Entraigues, des Carpentraciens à Carpentras, ouais. Et des Avignonnais. Alors des Avignonnais, c'est un peu moins compliqué, ouais.
Mais des Salonnais à Salon, enfin, ouais. Même si le Salon c'est ouais, difficile, oui. Mais il y a vraiment un travail qui est fait. Et c'est un petit peu ce que le constat que l'on fait avec Florian depuis quelques années.
On va en reparler, ouais.
Ouais. C'est que ces jeunes, ils peuvent pas tous partir. Parce que leur objectif, c'est vrai que c'est le haut niveau, mais le but aussi, c'est qu'ils reviennent vers nos clubs, et c'est ça en fait le travail que l'on fait au pôle, c'est que c'est pour ça aussi qu'on travaille, c'est pour les clubs quoi.
Puis c'est intéressant de voir des mecs qui sont partis tenter leur chance ailleurs, on va dire, bon, encore une fois, on parle de Richard, mais je me souviens que Richard était parti à Carcas, si mes souvenirs sont bons. Il a un peu, il s'est un peu perdu, et puis finalement, ben, il revient filer un coup de main, au club à Carpentras, et on voit hier qu'il marque 3 essais, c'est ça, Jérôme?
Oh ouais, hier, il a marqué 3 essais, il était très performant, on l'avait mis, à l'arrière, après il est passé à l'ouverture suite à la sortie de Hugo Bravo, donc oui, on est très content de l'avoir récupéré. Voilà, nous, c'est, oui, comme je te disais, hier, on est rentré sur le terrain, je crois qu'il y avait 70% des joueurs formés à Carpentras, donc c'est une fierté aussi d'être au niveau où on est avec le collectif et l'effectif qu'on a, quoi.
Jérôme, justement, donc là, effectivement, c'est vraiment une plus-value pour Carpentras. Si demain, on te dit, tu montes en Elite 1, tu signes?
Alors, honnêtement, là, à l'heure actuelle, je te dis non. Par contre, une chose qui est sûre, et on en parlait ce matin encore avec les présidents et Maxime Pala, c'est que moi, je suis un compétiteur et il y a quelque chose que je n'admets pas dans notre fédération, c'est que un champion de France ne monte pas. C'est quelque chose d'aberrant, c'est quelque chose qui en plus lasse les autres clubs. J'en parlais avec les dirigeants de Villefranche. Tu pars dans un championnat qui est faussé dès le départ. Tu as deux équipes qui dominent de la tête des épaules et qui sont champions chaque année, ou quasiment chaque année, et qui ne montent pas. Donc, moi, si tu me dis à l'heure actuelle, je monte, non. Par contre, si on fait l'exploit d'être champion de France, oui, on montera.
Xavier,
tu vois, sur ce problème-là, parce que c'est un truc qui est récurrent quand même, qu'on entend, et pas que cette année, pas que l'an dernier, c'était déjà le cas il y a 20 ans, me semble-t-il, on a toujours vu ça,
oui.
Et c'est toujours un peu chiant, en fait.
Ouais, non, mais c'est sûr.
Avec Carpentras, où on est champion de France en 2004 et que le club refuse de la montée. Donc nous joueurs on était contre, puisque voilà, un joueur, je pense que son objectif c'est de jouer au plus haut niveau. Donc moi je trouve que le champion doit monter, le dernier descend, et puis voilà, c'est dans tous les sports, ça se fait comme ça. Je vois pas pourquoi nous on n'arriverait pas à le faire.
Non, mais il y a une réforme profonde à faire sur tous ces championnats et on y travaille et c'est la réalité, quoi. Il y a même dans les divisions inférieures, on veut pas monter. Enfin, à un moment, effectivement, si on joue juste pour avoir un titre, mais il apporte quoi le titre? Enfin, il apporte un titre, mais le but, je suis complètement d'accord avec toi. Le but, c'est d'accéder au plus haut niveau, quoi. Sinon, donc c'est la difficulté et c'est cette refonte qu'on doit mener sur notre sport. Ça, c'est clair.
Très bien. Bon, ouais. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme. Donc, on a bien entendu les commentaires et c'est bien parce que au moins les dirigeants de la fédération française étaient là et ont entendu. En tout cas. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre au téléphone. On te souhaite bonne chance.
Il y a Flo qui voulait dire un mot à Jérôme.
Ouais, je voulais juste le féliciter du travail accompli, parce que les fruits de tout le travail sont en train de payer. Et voilà, je pense que ça récompense aussi tout le travail des dirigeants sur plusieurs années sur les jeunes et sur la formation. Donc bravo à vous et j'espère que vous irez loin.
Bah donc merci. Toi, t'as les commentaires au niveau des membres de la fédération française. Bonne chance pour la Coupe de France contre Lyon, mais bon, comme tu disais, c'est vrai que ça sera vraiment le championnat. Bah écoute, on te souhaite le meilleur et de toute façon, on continuera à vous suivre jusqu'à la fin de la saison.
Un petit dernier mot pour Monsieur Vasson qui est donc notre président et qui a la fédé. Ce serait bien aussi, on en discutait avec pas mal d'équipes, de reformuler le championnat junior, puisque à l'époque, moi, quand je jouais en première, il y avait le championnat élite 2, il y avait le championnat junior élite 2. Et je trouve que ce serait bien, parce que les jeunes de maintenant, en junior, je trouve que le championnat, il leur apporte pas grand chose. Ils ont joué 4 fois contre Salon, je crois, nos juniors à nous. Et au bout d'un moment, ces jeunes se lassent et partent voir ailleurs. Donc, ce serait pas mal d'essayer de faire, d'imposer toutes les équipes d'élite 2 d'avoir une équipe junior pour que ces juniors puissent faire un championnat équivalent à celui des seniors.
C'est une catégorie très difficile et on le voit, enfin, très très peu d'équipes en France par rapport à ce que l'on a, mais c'est vrai qu'on y a travaillé aussi depuis 2-3 ans. Il y a eu au niveau national création de quelques équipes juniors, mais c'est une catégorie super difficile, due à l'âge et due à plein de choses, mais c'est vrai que c'est le travail qu'il faut qu'on fasse et cette première phase de championnat est peut-être parfois un peu délicate, mais je crois que ça va changer encore l'année prochaine. Ils en ont parlé encore aux commissions, il va y avoir des nouveautés.
Jérôme,
c'est important.
Jérôme, oui. On va te laisser. Compte sur moi pour continuer à les torturer, les deux, là. Et de venir les chatouiller sur les points délicats.
Parlons de la formation. En tout cas, Jérôme, merci beaucoup.
Salut, à bientôt.
On va faire une petite pause musicale. Merci beaucoup, Jérôme.
Merci.
Et à bientôt.
Ciao, Gé.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Parlons sport sur RTVFM.
Voilà, de retour dans le studio. Donc aujourd'hui, rugby à 13 avec nos invités Xavier Vasson et Florian Chautard. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Ça va permettre justement de parler de rugby à 13. Et moi, je voudrais quand même revenir sur ce problème de montée de division que Jérôme a parlé. C'est-à-dire qu'effectivement, on parlait avec le hand tout à l'heure. Les premiers montent, les deuxièmes jouent les barrages. Pourquoi c'est pas pareil en rugby à 13? C'est historique ce système?
C'est un problème de. Moi, je suis assez récent dans ce sport, mais je pense que c'est un problème d'effectifs, quoi, de nombre d'équipes et c'est ça, et de moyens. Écoute,
ça a toujours été. Alors maintenant, encore une fois, les choses ont tendance à changer et
c'est pas
parce que tu es là. Que je le dis, je l'ai dit à maintes reprises, mais pour moi qui suis un vieux treiziste et parfois repenti d'ailleurs, mais il y a toujours eu ce genre de problème, il y a toujours eu des équipes qui se sont achetées des titres entre guillemets On me parlait tout à l'heure de la formation, mais des mecs qui se sont achetés des titres, et le dernier en date, je crois que c'était Pia, qui s'est acheté une doublée en élite.
Et qui après arrête.
Qui font le truc l'année d'après. Des équipes d'élite 2 ou de fédéral qui s'achètent des titres. Quand je dis acheter des titres, c'est qu'ils mettent énormément de moyens pendant un court laps de temps pour faire venir des mecs de fous. Et puis ça monte pas. Le seul problème, c'est que si tu les empêches, enfin si tu les obliges pas à monter, ben ils sont toujours là l'année d'après. Si tu prends l'exemple de Ville-Gaillen, non seulement ils sont champions, ils ont pas voulu monter, mais en plus ils se sont encore armés cette année.
Ah oui.
Et du coup, alors heureusement qu'il y a Bao, mais Bao, ben c'est pareil, c'est la course à l'armement parce qu'ils ont récupéré les Catalans. Au final, quand tu es Entraigue, Lescure, Carpentras, et ben tu attaques le championnat en te disant dans le meilleur des cas, et ben tu es troisième quoi. Tu es troisième et tu sais qu'en plus tu vas te faire secouer dans les phases de finale parce que tu n'auras pas les moyens d'aller. Alors sur un match, oui, tu peux aller les choper. On a vu Entraigue il y a 15 jours aller
gagner.
Aller, en tout cas, et puis aller titiller. Non, c'est il y a 3 semaines.
Avec Bao, quand Bao est venu.
Ouais. Mais sur une saison, et ben bon, voilà.
Sinon, alors pour y voir clair, c'est-à-dire que si un club qui est en élite 2 a envie de monter, il monte quel que soit son classement. Ou non, il y a quand même des règles.
C'est compliqué que ça.
Ouais, il y a quand même des règles. Mais bon, c'est compliqué là. Il faut tout refondre le système, quoi. On est en train d'y travailler, hein. On peut pas tout changer.
Il y a eu énormément de
changements. Ça se comprend, mais c'est vrai que pour essayer d'y voir plus clair, parce que théoriquement, effectivement, ce sont les deux premiers qui peuvent éventuellement monter en élite 1. L'élite 2, bah, les deux derniers qui descendent. Donc là, c'est quand même plus compliqué que ça.
C'est ce qu'on disait en off tout à l'heure. C'est que, à un moment, après, tu fais les moyennes du bord et des fois, et ben pour avoir un championnat à peu près cohérent, et ben t'es obligé d'accepter des petits, on va dire des arrangements.
Ouais, même si c'est pour.
Même si tu sais qu'à un moment ça va puer un peu. Là, on a lu dernièrement Montpellier qui est en train de créer un nouveau projet et qui. Non mais.
Oui.
Il communique avec ça.
Oui, il y a une communication autour d'un nouveau projet sur Montpellier qui voudrait monter directement.
Directement attaquer en
élite 1.
Ouais. Bon, enfin, c'est pas le plus. Honnêtement, c'est pas le plus intéressant dans ce sport. On peut parler plutôt de ce qui se passe sur le terrain et avec les équipes du coin et de la formation, puisqu'on a fait venir
Florian
Chotard, qui est le responsable de la formation au pôle, c'est ça, Flo ?
Ouais, c'est ça, entre autres. Ouais, j'ai plusieurs missions. Je suis le référent technique auprès de la Ligue PACA. Donc, je travaille directement avec Xavier. Et donc, je suis le responsable du pôle espoir. Le pôle espoir de Salon donc, qu'on a créé en 2006 avec une particularité, ben, c'est qu'on gère notre propre internat privé. Donc on a créé des emplois pour surveiller ces jeunes le soir. On prépare nous-mêmes les repas. Donc du coup, voilà, c'est beaucoup de boulot pour ce pôle. Mais par contre, c'est un accompagnement vraiment individualisé. Et on est au plus près des jeunes.
Combien de jeunes ?
Alors on a 23 internes et 40 jeunes au total. Et je pense que la grosse force de notre pôle espoir, c'est qu'on a placé l'individu au centre de tout, puisqu'on a maîtrisé tout, ouais, des repas jusqu'au nombre de papiers toilettes, voilà pour l'anecdote.
À l'aide aux devoirs, on les fait.
De l'aide aux devoirs, voilà. Et en fait, on accompagne vraiment l'individu dans son projet global et pas simplement le sportif. Donc je pense que c'est un des facteurs qui fait que de notre réussite, puisqu'il y a quelques joueurs qui sont sortis de notre pôle.
Et on le voit, pardon, sur le terrain à plus haut niveau, quoi. Les équipes de France et puis sur les équipes phares.
Ils jouent en Super League.
Ils jouent en Super League, oui. J'ai regardé la fin du match parce que j'étais pas dispo ce week-end, mais j'ai regardé la fin du match des Dragons et à la fin on les interroge et on parle des Vauclusiens, quoi. Et ces trois jeunes.
Ben là, ouais, sur le match des Dragons donc en Super League et il y a trois gamins qui sont issus du pôle, donc c'est plutôt trippant C'est plutôt trippant de voir un mec comme Mika Goodman, par exemple.
Il n'est pas passé. Enfin, il n'est pas passé chez nous. Lui.
Alors, c'est qui n'est pas passé.
Ouais. Pas passé. D'accord.
Alors, t'en avais trois quand même. T'as Tony, il y a Tony Gigot, Fouad et Benjamin Julien.
Ouais. Donc du coup.
Non, juste une parenthèse. En Super League, il y a combien de clubs ? Il y en a qu'un ? Les Dragons ?
Il y a qu'un club français qui est en championnat anglais.
Il y en a qu'un.
Il y en a une deuxième division.
Après, il y a
Toulouse qui tape à la porte.
Où on a Jordan. De Zaria qui est passé chez nous, qui a signé.
Et le petit Romano qui est en double licence.
Ouais, Romano, et on en a un qui est, qui vient de se prendre, enfin, signer au centre de formation, c'est, je vais l'oublier, le petit de Saint-Martin-de-Crau, Timothée Bertrand.
Mais pour le coup, même si c'est pas spécifique au pôle espoir, mais la formation provençale, pour le coup, elle fonctionne, puisque on voit à Carpentras, tu disais, il y a 7 ou 8 gamins de issus du pôle. Entraigue, c'est à peu près la même.
Ouais. Alors vraiment, on a fait avec Xavier, donc une des priorités de la Ligue PACA de rugby à 13, ça a été la formation des joueurs. Donc on a construit, alors ce que nous on appelle dans notre jargon, un plan de performance, c'est-à-dire une filière vers le haut niveau qui part des plus jeunes, parce que c'est aussi notre priorité, avec le challenge Roger Jourdan dans la Provence, voilà, qui passe souvent sur le journal de la Provence, où on travaille beaucoup sur les valeurs du rugby à 13 et on relativise beaucoup la victoire. Ensuite, on a tout un système de détection et d'accompagnement vers le haut niveau et vers le pôle espoir au travers des comités d'origine. En fait, c'est une compétition des sélections départementales qu'on a mis chez les moins de 13, moins de 15, moins de 17. Et c'est un véritable suivi de nos meilleurs potentiels. Donc, pour les faire basculer dans notre structure de haut niveau, qui est le pôle espoir de rugby à 13.
D'ailleurs, juste là, je te coupe Florian, mais la prochaine rencontre se passera à Carpentras le 24. C'est
exactement,
ça, hein, 24
il y a mars.
Ouais, 24 mars à Carpentras.
Le jour du derby, c'est le jour du derby.
C'est ça, on a levé de rideau, il y a deux matchs.
On sera en direct, nous, de 13 ou 15. On commentera le match en direct de Carpentras.
On sera présent.
Et donc voilà, donc pour les orienter vers le pôle espoir, et là où je vous dis, où on a essayé véritablement de centrer sur l'individu, l'accompagnement global de la personne, parce que je pense que c'est le plus important dans tout ce qu'on fait, jusqu'à la sélection de ligue, qui est un peu le diplôme de fin d'année qui valide toutes les compétences qu'on a développées souvent dès le plus jeune âge, et où avec laquelle on part... On part en Angleterre sur une tournée, on leur fait vivre une tournée comme les équipes de France, c'est-à-dire avec beaucoup d'équipements, d'organisations sportives qui sont semblables à celles des équipes de France, puisque j'interviens aussi sur les équipes de France. Et voilà, ça valide un peu tout ce qu'ils travaillent avant. Et véritablement, on a un fil conducteur dès le plus jeune âge jusqu'à à peu près les 18 ans, qui fait que on arrive à sortir quelques pros. On est à 5% de joueurs professionnels. Alors ça paraît peu, mais en fait c'est énorme pour des structures, surtout comme la nôtre, qui sont pas pros. Et aussi, le double objectif du pôle espoir et de la ligue, c'est d'alimenter nos clubs régionaux. Et donc c'est pour ça qu'on est content aussi que le club de Carpentras réussisse. Donc Avignon en élite l'an dernier est arrivé à être champion de France, même s'ils ont un peu des difficultés cette année. Carpentras réussit en liste 2. Entraigue s'accroche aussi sur les places qualificatives.
Ouais, c'est pas mal, là. En plus, ils sont sur une bonne série.
C'est exactement ça. Et même du côté de Salon, donc, qui éprouve quelques difficultés, mais qui ont beaucoup de jeunes issus du pôle, puisqu'ils sont sur place, et qui, à mon avis, dans les années à venir, vont faire parler d'eux.
Le pôle a été créé il y a combien de temps ?
Alors, le pôle, il a été créé en 2006. En fait, on avait fait un diagnostic que tous nos meilleurs joueurs partaient au pôle de Carcassonne. Donc c'est Patrice Rodriguez, mon prédécesseur, qui a lancé avec les élus de la Ligue
à l'époque, ouais.
Et qui a fait ce diagnostic. Il a lancé un centre d'entraînement, une structure. Et alors la particularité qu'on avait, c'est que stratégiquement, soit on se rapprochait du club d'Avignon et on crée une véritable dynamique autour du département du Vaucluse, mais quitte à créer vraiment une balance côté Vaucluse et laisser un peu les Bouches-du-Rhône. Et le parti pris a été de le mettre sur Salon de Provence. Et donc la grosse particularité, c'est qu'il n'y avait pas d'internat public. Généralement, tous les pôles espoirs sont greffés à un lycée et à un internat. Et donc il n'y avait pas ça sur Salon. Donc du coup, on a exploré plusieurs pistes au début. Ça a été assez difficile jusqu'à ce qu'on trouve une maison de 200 mètres carrés. Donc avec laquelle on a passé un bail à long terme, on a fait quelques travaux d'aménagement, et à l'heure actuelle on a 8 chambres, donc 23 internes, donc on a 2 CDI, 3 équivalents temps plein, plus après des intervenants extérieurs. Et
donc ça marche.
Et notamment des aides au devoir, ouais, on a 100% de réussite au baccalauréat sur les 5 dernières années. Donc ça aussi,
c'est important.
C'est une bonne satisfaction, oui.
Ouais, c'est important. Mais vendredi, on a déjeuné là-bas avec les proviseurs adjoints et même maintenant un principal, parce qu'on est aussi on a fait un partenariat avec un collège puisqu'ils rentrent plus jeunes, et c'est vrai que le constat est là, quoi. il n'y a pas que le sportif et c'est super important quand même pour nous. Il faut que les gamins réussissent tous leurs projets parce qu'ils finiront 5%. Flo le dit, 5% de joueurs pro,
ça fait
les
pas
autres
mal de déchets.
Et les autres, il faut qu'ils fassent.
Quand bien même les mecs passent pro, enfin, on le sait, et à 13,
ah oui,
à 13 plus particulièrement, tout. Quoi, t'as pas des carrières
exactement.
Non, mais super longues, à 31, 32 ans, ça commence à piquer un peu. Si t'as pas préparé la suite, c'est.
Non, mais il le faut, hein, c'est sûr qu'il le faut.
Non, quoi. Mais je pense que c'est. Je me répète un peu, mais je pense que c'est la réussite, c'est qu'on accompagne l'individu dans sa globalité. Et je pense que c'est ça qui est important, parce que le sportif, ça dure un moment. Donc voilà, on s'attache vraiment à ce qui ben, travaille à l'école aussi. Donc, je vous dis, il y a 3-4 personnes le soir qui les aident au devoir, en plus du maître d'internat. On a une personne qui anime des ateliers spécifiques d'anglais. Donc anglais pratique du rugby à 13, mais aussi général pour qu'ils puissent se présenter. Ouais. Donc voilà, c'est un véritable accompagnement. Alors c'est beaucoup de boulot parce qu'un internat privé à gérer, c'est je vous dis, c'est des fois j'adore pas bien.
C'est pour ça qu'il a plus de cheveux, Flo.
Voilà, ouais, c'est pour ça. Non, ouais, ça s'est pas mal dégarni ces dernières années, Flo. Fait, bon.
Et quand tu parles des, excuse-moi, Valérie, quand tu parles des, vous les prenez très jeunes, c'est-à-dire les plus jeunes ont quel âge?
Alors sur le challenge des écoles de rugby, le challenge Roger Joueur dans la Provence, qui est géré par la Ligue, il commence dès 5 ans.
Ben on a vu les petits qui sont très grands maintenant, mais qui ont commencé chez nous au challenge et avec ces valeurs-là. Mais après au pôle, vous parlez du pôle là.
Oui.
Oui, on les prend. Enfin, ils viennent chez nous à partir de la troisième, hein, c'est ça, Flo?
Ouais, c'est des moins de 17, donc généralement c'est à troisième ou seconde. Donc généralement c'est plutôt le créneau lycée.
Et la sélection se fait par une détection?
Alors,
où ils candidatent et
voilà. En fait, l'important dans tout ce que j'ai dit, c'est vraiment que ça soit leur projet personnel. C'est-à-dire que nous, on n'accompagnera pas quelqu'un qui n'a pas de l'ambition de réussir. Alors, tu parlais de déchets, mais pour nous, c'est pas un déchet quelqu'un
qui
finit sur l'élite 2. On a aussi atteint notre objectif parce qu'on a renforcé nos clubs.
Non, mais quand je parlais de déchets, c'était par rapport à l'objectif initial. Quand ces gamins ils rentrent au Pôle Espoir, ils ont qu'un rêve, ouais, c'est d'aller jouer avec les Dragons ou éventuellement ou d'aller partir en Angleterre.
Maintenant, ça s'ouvre vers Toulouse aussi, hein.
Ouais, ça commence à s'ouvrir un petit peu. Mais allez, on va dire que jusqu'à aujourd'hui, le deal c'est les Dragons.
Mais c'est clair.
Et éventuellement, si tu rates l'entrée des Dragons, d'aller te choper un contrat en Angleterre. Quand je parle de déchets, c'est ces gamins qui n'ont pas réussi à avoir cette
marcherelle
là.
Bien,
bien sûr que d'aller jouer en élite 1 au SOA ou d'aller jouer en élite 2 à Carpentras ou à Andrègue, c'est pas du déchet, mais par rapport à l'objectif initial, c'est forcément un truc qui a été raté, quoi.
Mais tu vois, nous, on a véritablement ce double objectif, c'est-à-dire d'accompagner l'individu vers le plus haut niveau possible. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il soit partie prenante de son projet véritablement, et donc ça peut être de l'élite 1, ça peut être du professionnalisme, mais c'est aussi de renforcer nos clubs régionaux. Donc véritablement on poursuit ce double objectif, c'est pour ça qu'on a un effectif assez important de 40 qui nous permet à chaque fois de les mettre en situation d'opposition et de réinvestir tout le travail qu'ils font.
Moi qui en connais quelques-uns des anciens pensionnaires du pôle, on s'aperçoit que les mecs, tu arrives à avoir des discussions avec eux, contrairement à d'autres filières, même là maintenant, au foot et quelques filières rugby, il y a peu de discussions, alors que j'ai vu la photo là des anciennes du pôle, là il y a eu une réunion où il y a eu un truc qui se prépare, non?
Et on a essayé de faire un rassemblement des anciens,
ouais, voilà.
Mais ça n'a pas été facile.
En tout cas, j'ai vu les mecs qui s'étaient proposés, et j'en connais quelques-uns. Enfin, c'est bulbé, quoi. Mais tu t'arrives à avoir des discussions avec eux, à part une paire, mais la démarche là, pour le coup, elle.
Non, mais après voilà, on essaye vraiment qu'ils soient responsables de leur projet et qu'ils portent leur projet pour réussir, parce que je pense que c'est une clé de la réussite, donc. Donc sûrement, mais après, bon, ça reste lié aux individus, aux personnes. Donc, mais on les accompagne en tout cas dans leur parcours de vie, quoi.
Valérie, tu voulais poser une question, après on fait une petite pause.
Voilà,
musicale.
Moi je voulais juste te poser une question parce que bon, on parle de joueurs, on parle de ceci. Tout à l'heure, tu as parlé que vous aviez pas trop d'arbitres. Est-ce que vous, au niveau de la fédération, vous essayez de former des arbitres, est-ce que dans votre formation vous pouvez pas intégrer des joueurs qui malheureusement n'arrivent pas
il y a
quelques années de ça, mais après c'est à revoir et à rediscuter, mais il y a quelques années de ça, tout les jeunes qui étaient au Pôle Espoir avaient une formation arbitre. On leur avait même la ligue, on leur avait même, on leur offrait même des kits, les drapeaux, les cartons, etc., les sifflets, pour qu'ils puissent. La difficulté qu'il y en avait, c'est que c'était des gamins qu'on ne prenait pas le week-end parce qu'ils étaient mineurs et que c'est difficile de les mettre au centre du. Quand on voit ce qui se passe aussi tout autour de l'environnement. Donc, mais on a quelques gamins qui sont passés arbitres et qui sont arbitres. On a eu, il va reprendre sans doute parce qu'il est blessé, mais il joue en trègue. Thomas Jourdan, qui est passé par l'arbitrage et qui a fait, qui faisait des très bons matchs. On a François Gaillot aussi qui est passé chez nous et qui faisait de l'arbitrage. Et on a quelques gamins qui sont passés par là. Mais alors, je crois que c'est quelque chose d'important. Il faut aussi que on se reconcentre là-dessus au niveau de la fédération, même si il y a aussi un gros travail qui est fait par la commission arbitrage, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on se reconcentre là-dessus, former aussi, parce que des joueurs qui passent par le pôle sont des jeunes qui doivent être irréprochables sur leur comportement, sur leur attitude et qui doivent connaître les règles. Ce sont des joueurs de haut niveau et il faut qu'ils passent par ce côté arbitrage. Donc il y a beaucoup de choses qui est fait au pôle à Carcas. Ils ont plus parce qu'ils ont ils ont peut-être plus le temps ou ils mettent plus de temps là-dessus et que nous on a vraiment une gestion différente quoi. Mais je pense qu'il faut qu'on y revienne, ça c'est sûr.
Alors on fait une petite pause, parce que je sais que j'ai envie de parler encore, mais on fait une petite pause et on revient juste après.
Merci.
Sport sur RTVFM.
Voilà, de retour dans le studio pour la dernière partie de l'émission avec nos invités d'honneur concernant le rugby à 13. Xavier Vasson, président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur et membre également de la, du comité directeur de la Fédération française, et Florian Chautard, conseiller technique national. On parlait justement du pôle espoir hein, qui est un pôle d'excellence. Moi, ce que je voulais revenir, c'était sur l'impact du rugby à 13 au niveau français. C'est-à-dire que on parle de l'élite 1, l'élite 2, mais on parle également de la Super League. La Super League, c'est quoi? C'est un club qui est des Dragons, qui va jouer en Angleterre.
Oui. Qui est champion d'Europe d'ailleurs, qui voilà, a gagné qui... la Cup.
Te prends pas le micro.
Non, mais accessoirement,
voilà. La coupe. Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi en France, on n'est pas capable de faire la même chose?
Ben c'est on y travaille aussi quoi. C'est un travail de longue haleine. C'est bon, il y a eu un virage qui a été loupé il y a quelques années de cela, et je pense
qu'il y en a pas qu'un.
Ouais, il y a plusieurs, mais il y a un virage de route, sur la professionnalisation où on a dit, enfin les trésistes ont dit oh non on reste comme ça, et c'est voilà, c'est un gros un problème. Après on y travaille, c'est les hommes, les moyens, les lieux. Il y a un projet qui est toujours d'actualité, qui est c'est le Super 13 qu'on veut faire en France avec 13 villes qui vaut 13 villes de France où on peut jouer au rugby à 13. On s'est rapproché des joueurs quinzistes qui ne jouaient pas pour essayer de faire un championnat un peu plus professionnel. Mais voilà, faut que ça suive. On était le président Marc Palanque, quand on a débuté, on a passé les premiers matchs sur France Télévisions. Donc voilà, où on a eu on a dit ben, premier, le match qui s'est déroulé à Avignon d'ailleurs, France-Angleterre,
France-Angleterre.
Ouais, c'est ça. Et puis après on passe plus, donc à un moment on se pose des questions quoi. On passe à la télé par la TNT, la TNT via Occitanie, on a quelques matchs, mais après le reste voilà, c'est difficile.
Moi, c'est vrai que ça me désole énormément, parce que bon, moi je suis un peu issu du rugby à 15 hein, parce que je suis
il y a pas de
supporte
hein.
Voilà, on n'est pas tous voilà parfait.
Ouais, c'est
mais
pas
c'est vrai que en venant ici, j'ai appris à apprécier le rugby à 13, et j'apprécie vraiment parce que c'est dynamique, et je trouve que le rugby à 13 a vraiment sa place,
ouais,
aussi bien à la télé que avec un grand championnat en France. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage justement de se dire les meilleurs joueurs vont jouer en Angleterre ou s'exilent en Australie. Et c'est vraiment dommage parce que vraiment, surtout quand on voit, excuse-moi de te couper, mais quand je vois l'équipe de France de rugby à 15, ils sont même pas fichus de jouer correctement, je me dis je préfère voir jouer des trésistes.
Je suis d'accord, c'est vrai qu'on regarde l'année dernière et les deux finales, la finale de la Coupe Lord Derby et la finale du championnat de France. Enfin, je veux dire, si ça passe, il y a un suspense, c'est magique, quoi. C'est un de super match. On s'est régalé. Donc, on est complètement d'accord. Mais c'est vrai que notre difficulté, c'est ça, quoi. C'est de franchir ce pas, même si on y travaille.
Historiquement, je vais faire l'ancien combattant, mais
tu l'es.
Il y a un virage qui a été raté. Mais c'était pas un virage, c'était un crash, quoi. C'était la finale de 81.
Ah, mais il y a pas que ça.
Laisse-moi parler, Xavier. Il y a ce truc-là, et ça a débouché sur 40 ans d'incompétence derrière, parce que les incompétents ont succédé aux incompétents. Flo est témoin. Toi, t'étais pas encore peut-être trop dans le truc.
Il était pas né.
Mais ce sport-là, il a failli complètement disparaître.
Non, mais c'est clair.
Il y a eu un championnat d'élite à 7 équipes une année.
Ouais, c'est horrible.
Et il y a des mecs qui ont tenu la baraque. Je vais pas faire le cinéma, mais il y a des mecs qui ont tenu la baraque, qui ont réussi à maintenir des clubs. Carpentras, Avignon, même nous, il y a eu une année à Avignon où avant que ça reparte en élite 2, on s'est fait une saison en fédérale. Mmh. Où il fallait vraiment avoir le cœur bien
accroché. Il y a des mecs qui croient, puis il y a des mecs dangereux pour notre sport, mais réellement quoi.
Bien sûr.
Je veux dire, il y a des fous quoi. Enfin, je le dis, il faut être fou pour faire mais il y a des fous qui y croient et qui font. Moi, j'admire des gars. Après, ils sont décriés, on va dire, il est avec eux, mais j'admire des gars comme Marc Palanque, mais impressionnant quoi. Je veux dire, ça, c'est quelqu'un qui apporte des nouvelles choses. Un gars comme même si aussi il est décrié comme Mathieu Kedimi.
il apporte, mais au niveau fédéral, je parle de son travail au niveau fédéral, il apporte une vision qui est super intéressante, quoi. Après, bah, il y en a d'autres qui veulent rester là où ils sont, et il faut qu'on bouge, quoi. Et je suis complètement d'accord, il faut qu'on bouge.
Et sinon, après, qu'est-ce qui manquerait vas-y, Florent.
Je pense qu'en fait, ce que veut dire Jean-Yves, c'est historiquement, on n'a pas su se structurer. Et je pense qu'on s'est reposé en fait sur nos lauriers en disant que justement notre sport il était beau et que ça allait suffire pour grandir. Mais non, en fait, il fallait l'embellir, il fallait l'empaqueter, il fallait y travailler, il fallait se structurer, professionnaliser, que ce soit sur le terrain ou même en dehors. Et en fait, ça, on n'a jamais su le faire. Et c'est pour ça qu'on est toujours resté très petit.
Un sport régional,
localement. Et contrairement au rugby à 15, qui lui a su se développer, à prendre un rayonnement national, et du coup ils se sont véritablement professionnalisés, et à l'heure actuelle on est un peu dans l'ombre de tout ça. Alors cela dit, on essaye, comme on n'a pas trop de moyens, on a forcément beaucoup d'idées. Et donc voilà, je pense que localement, nous on est arrivé à mettre en place des choses.
Avec le pôle déjà.
Voilà, avec un pôle, on a créé un pôle. Et je vous dis, au début c'était avec deux bouts de ficelle. Et voilà, on a véritablement beaucoup d'idées, et notamment chez les jeunes, on a d'excellents résultats sur nos équipes de France jeunes. On est quasiment à 80% de victoires face à l'Angleterre, qui a 10 fois plus de licenciés que nous. Par exemple, sur nos U16, on est à autour de 800 licenciés. Ils sont à plus de 8000. Et en fait, on arrive à les battre régulièrement. Et
donc, c'est qu'il y a un bon vivier chez vous.
Bien sûr.
Il y a un beau travail de formation, je pense.
Moi, justement, je voulais demander où en était l'équipe de France de rugby à 13 au niveau, on va dire, international. Où elle se situe?
Alors, l'étape suivante, c'est les moins 19. Alors, j'étais dans le staff, j'étais manager général sportif. Alors là, pareil, on est champion d'Europe. Même chose, on arrive à battre les joueurs de l'académie, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'antichambre des pros. Non, c'est-à-dire l'académie, ceux qui sont qui vont passer pro, et certains avaient déjà joué des matchs en Super League. Donc l'an dernier, on fait deux test matchs, et sur les deux test matchs, on arrive à en gagner un et en perdre un d'un point. Donc sur les deux, on gagne la série.
Alors c'est difficilement compréhensible que ce sport ne se démocratise pas plus, parce qu'on a quand même, au niveau européen, on est quand même bon, donc je comprends pas pourquoi au niveau aussi là, de la télé et tout ça, on ne passe pas plus de matchs, parce que c'est vrai que c'est plaisant. Moi, j'ai appris à découvrir, c'est vrai, quelques
sur les terrains là ici. Oui.
Voilà, c'est vraiment. Et puis même d'aller le voir, vraiment, ouais, c'est vraiment plaisant.
Oui, et je rejoins Valérie, c'est-à-dire que à vous entendre tous les trois, c'est vrai que on vit dans le passé. C'est-à-dire effectivement,
ouais, non, voilà.
on a raté des virages.
Il faut arrêter.
Moi, j'ai deux personnes sous mes yeux entre Xavier et Florian. Je vous vois compétent parce que avec le pôle qui fonctionne, la ligue qui tourne super bien. Vous avez des idées, il manque plus qu'à agir, quoi.
Il manque plus que les moyens.
Il y a juste les moyens, et les moyens viennent, on va dire que le manque de moyens vient en partie, malheureusement, des conneries qui ont été faites dans le passé.
Oui, mais justement, il faut rayer tout ça, il faut arrêter de parler de l'avant.
Après, la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que aujourd'hui, il est plus facile d'aller voir un partenaire pour lui demander 100 000 euros pour monter en fédéral 3 à 15. Et te disant ça, moi, je suis trésiste de cœur et licencié à 15, d'accord ? Donc, te disant ça, aujourd'hui, c'est plus facile d'aller vendre un projet à 100 000 euros en fédéral 3 à 15 qu'un projet à 50 000 euros en élite 1 au SOA. Et là, c'est juste les mentalités, c'est juste...
Il faudrait faire du matraquage. Il n'y a pas de raison.
Alors on essaye, mais après véritablement le manque de moyens, c'est un vrai frein, quoi. Alors moi, je suis pas trop dans les histoires passées.
Moi non plus.
Voilà. Même si je connais l'histoire, on regarde beaucoup sur l'avenir. On a beaucoup d'idées, mais après on se heurte forcément au manque de moyens, alors que ce soit humain. C'est un véritable problème, je pense, à tous les niveaux, que ce soit, on en discutait, des arbitres, des joueurs, des dirigeants, des entraîneurs. C'est un problème de moyens humains et qui est en corrélation avec un problème de moyens financiers, quoi. Mais véritablement, ça, il y a des projets qu'on mène pas à bout parce qu'on n'a pas les moyens financiers pour les mener à bout.
Et là, par exemple, le projet que tu parlais, Xavier, par rapport à la Super League française,
Ben, c'est un moyen, et justement, il faut trouver les structures, il faut trouver des moyens pour pouvoir.
Vous en êtes où à ce moment?
C'est encore l'étude, quoi.
Mais les structures, ils peuvent les partager avec les clubs de
la 15,
hein. Il n'y a pas de raison.
Vous les avez sollicités à ce niveau-là, comme ils sont en Super League, ils seraient prêts à venir en France, eux?
Ils sont en France, mais ils sont basés à Perpignan.
De jouer justement dans ce projet français.
C'est ce qui est difficile dans notre sport, du fait qu'on soit pas énormément nombreux. C'est qu'on n'arrive pas à mettre tous en commun un véritable objectif. Et les objectifs des Dragons, clairement, il est différent de ceux de l'équipe de France.
Oui.
Mais c'est logique, parce que c'est un club professionnel. Et lui, il doit sa survie à ses résultats. Donc il doit forcément prendre les meilleurs. Les meilleurs, ce n'est pas forcément des Français.
À titre d'exemple, cette année, les Dragons, par manque de moyens, ont supprimé l'académie. C'est-à-dire le dernier step qu'il y avait entre les juniors et les Dragons, les juniors, on va dire les moins de 19, eh ben par manque de moyens, parce que même eux, ils sont confrontés à ça, quoi. T'as beau mettre tous les moyens que tu veux, etc. T'as beau avoir tous les bons joueurs que tu veux,
et
Dieu sait
s'il
y en a, parce que ça alimente.
Non, mais pour aller dans ton sens, l'ancien directeur technique national, donc qui était Patrice Rodriguez, donc mon prédécesseur,
est parti dans une autre fédé.
Non, mais c'est surtout que, en fait, il avait pour projet de véritablement cette académie moins 19, donc en lien avec le ministère, puisque lui, il était en permanence en lien avec le ministère, de greffer notre pôle France avec les Dragons Catalans, donc de faire une sorte de partenariat. Et en fait, faute de moyens à leur niveau, oui, bien sûr, les Dragons Catalans, c'est tombé cette énorme passerelle vers le haut niveau qui était leur académie. Et donc, du coup, en fait, on se retrouve sans passerelle pour aller vers les Dragons Catalans. La seule passerelle, c'est l'élite 1. Et donc, il y a un gouffre énorme entre l'élite 1 et ce qui est professionnel. Donc, c'est là où c'est difficile.
Parce que là, en fait, on voit que au niveau le rugby à 13 français se porte bien. On a des clubs, donc on a même les jeunes qui sont champions d'Europe, hein, c'est bien ça,
ça.
Oui.
Donc, les moins de 19. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour justement arriver à faire cette Super League française
à 100 millions d'euros? Ouais, peut-être, mais après c'est des hommes qui croient qu'ils vont pas, qui lâchent rien et qui aillent jusqu'au bout, et que on mette pas des cailloux pour qu'on puisse trébucher, quoi. Il faut qu'on se travaille tous ensemble, c'est ça. En fait, je sais que c'est parfois difficile et qu'on regarde sa maison avant de regarder celle des autres, quoi. Mais je pense que si on se serre tous les coudes et qu'on avance ensemble vers quelque chose, un projet, avec quelque chose qu'on y croit, et je suis complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire faire race du passé, quoi. Je veux dire, le passé, c'est le passé, c'est pas ça qui va nous faire avancer.
Et pourquoi pas le faire découvrir aussi dans les écoles?
Mais c'est aussi
parce qu'on n'en entend jamais parler de rugby à 13 dans les écoles.
Si, après, on a.
Dans les écoles primaires.
On a fait un gros travail il y a quelques années, mais après, le problème, c'est la passerelle vers nos clubs et l'accueil dans nos clubs. Alors, faute de moyens, alors toujours humains et financiers, soit on structure l'accueil dans nos clubs, soit on intervient et on fait connaître le rugby à 13. Et c'est un énorme dilemme qu'on a, quoi.
Mais juste pour terminer, parce que ça est terminé, je crois que les clubs, ils font les bénévoles et les dirigeants dans les clubs, ils font un boulot extraordinaire, monstrueux. Je crois que il faut les saluer, parce que il faut y aller, quoi. Et avec peu de moyens, etc., ils vont les chercher. Ils sont présents. Je crois que dans le Vaucluse, dans le Bougeron, on est là où on est, mais dans le Vaucluse, voilà, parce que là on est ici, ils font un travail de fou. Et moi, je tiens à saluer et les trois. Co-président de Carpentras, par exemple, qui sont des gars, des papas, hein, ce sont des papas de joueurs qui sont là à fond et qui croient. Je crois que voilà, tout le boulot qu'ils font, ben moi j'en suis admiratif, quoi. Admiratif.
On n'a pas parlé de Andy Rugby à 13. J'aimerais
donc ça sera l'occasion. Non, mais ça sera l'occasion de les réinviter.
Ouais, mais ce qui serait bien, c'est de venir avec les jeunes et les joueurs, quoi. Parce que il y a une équipe, et on va en reparler, je pense, prochainement, parce que l'équipe d'Avignon aux 13 fauteuils sont premiers du championnat, et à mon avis risque de faire quelque chose de très très bien cette année. Ouais.
Très bien, merci beaucoup en tout cas Xavier, merci Florian.
Merci à vous pour votre invitation.
On va vous réinviter
quand vous voulez.
Bonne semaine sportive à tous et à toutes.
Merci.